Je parlais de cette introduction de l'expression de littérature de témoignage par Georges Duhamel au début de 1920, dans une conférence de 1920. En vérité, c'était pour introduire l'invité d'aujourd'hui, qui est Charlotte Lacoste, et qui s'est intéressée particulièrement au genre de la littérature de témoignage. Alors, on parle de ce genre du témoignage plutôt à partir de la Seconde Guerre mondiale, mais il est bien clair que, comme le texte de Duhamel auquel je venais de faire allusion le confirme, il est bien clair que ce genre du témoignage date de la Première Guerre mondiale et s'est largement répandu autour de la Première Guerre mondiale. Charlotte Lacoste, qui enseigne à l'Université de Lorraine, à Metz, est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Séduction du bourreau », publié il y a quelques années, et qui porte sur cette question du témoignage, qui a été au centre des études littéraires ces dernières années, à partir de témoignages donc plutôt sur la Seconde Guerre mondiale, mais qui ont conduit ceux qui y réfléchissaient à revenir sur les textes de la Première Guerre et notamment à l'œuvre de Jean Norton Cru, dont je vous ai dit un mot la semaine passée en le mettant sur votre courte bibliographie. Je vois qu'elle a apporté le gros volume de Cru intitulé « Témoin », ce livre où il recense en gros 300 livres publiés entre 1915 et 1929 sur la guerre et où il en fait la critique, souvent un peu pointilleuse. Charlotte Lacoste, dans son livre sur « Séduction du bourreau », commence donc par parler de Cru avant d'aller beaucoup plus loin, puisque dans son ouvrage, il y a une critique assez sévère, peut-être presque aussi sévère que Cru, des bienveillantes de l'auteur, soudain j'ai un trou de mémoire, Jonathan Little, les bienveillantes publiées il y a quelques années sur la guerre, sur la Seconde Guerre mondiale, et c'est à ça que fait allusion son titre « Séduction du bourreau ». Elle va donc nous parler, j'imagine, de Cru, puisque je vois que le livre est là, et c'est une très bonne introduction à notre réflexion sur la littérature de la Première Guerre mondiale. Son titre est « Le témoignage ou la guerre jugée, genèse d'un genre littéraire ». À vous.
Alors j'insisterai pour commencer sur la nécessité de poser un cadre conceptuel strict pour appréhender l'objet testimonial, dont le caractère protéiforme a de quoi égarer celui qui souhaite en faire, et c'est notre cas ici, son objet d'étude. En effet, le témoignage, terme redoutablement polysémique issu de la sphère judiciaire, a progressivement étendu son empire à de nombreux domaines, religieux, historiques, médiatiques, littéraires, au point de donner aujourd'hui l'impression que le mot est partout, et la chose d'autant plus hégémonique que, d'un certain point de vue, tout est témoignage, hein, au sens où toute chose peut toujours être considérée comme témoignant d'autre chose que d'elle-même. Une ampoule allumée témoigne du passage d'un courant électrique, une poterie retrouvée témoigne du mode de vie de l'homme des palafites, des inscriptions griffonnées sur le mur d'un cachot témoignent des dernières pensées d'un condamné. Avec une gradation, toutefois, le condamné à mort témoignant de manière plus consciente que ne le font la lampe témoin ou le tesson de poterie. Ce dont l'historien Marc Bloch rend compte en disant qu'il existe des témoignages plus ou moins volontaires. Transposé en littérature, où la notion de témoignage a fait une apparition remarquée ces 30 dernières années, sans être toujours clairement définie, l'observation de Marc Bloch conserve toute sa pertinence. En effet, à moins de considérer toute œuvre littéraire comme un témoignage, manière de se débarrasser du problème de savoir ce qu'est un témoignage littéraire sans avoir à le résoudre, il faut établir des distinctions. et percevoir d'abord la différence qu'il y a entre les textes porteurs d'une intention de témoigner et ceux dont le caractère testimonial est dû à une catégorisation rétrospective liée au type de lecture qu'on en fait. Les mémoires de Louise Michel portent plus directement ou plus volontairement témoignage qu'Émose et Camée, par exemple, ou même que La princesse de Clèves, hein, ce qui n'empêche pas de lire l'œuvre de Madame de Lafayette comme un témoignage de la vie menée à la cour des Valois dans les dernières années du règne de Henri II. Il convient de distinguer ensuite entre plusieurs démarches d'auteurs, irréductibles les unes aux autres, en ce qu'elles circonscrivent des projets différents. La démarche d'un romancier qui relate des événements historiques qu'il n'a pas connus, c'est le cas de Madame de Lafayette, hein, ce qui fait que La princesse de Clèves n'est un témoignage qu'au sens très large du terme. C'est le cas également de Tolstoï dans Guerre et Paix. La différencier de la démarche d'un romancier qui fait de sa rencontre avec l'histoire la matière de son roman, Tolstoï dans Les Cosaques, par exemple. Et la distinguer encore de la démarche d'un témoin direct décrivant son expérience de manière factuelle et non fictionnelle dans un livre publié, Primo Levi revenant d'Auschwitz et rédigeant Si c'est un homme. Dans ce dernier cas, on n'a pas affaire à du roman, mais bien quand même à de la littérature, l'auteur renouant avec le sens premier du terme témoignage, je cite Primo Levi, « Je voyais ce livre comme un acte judiciaire, j'avais envie de témoigner ». Cette envie de témoigner, partagée par de nombreux survivants des camps et mise à exécution par certains d'entre eux, explique l'apparition de textes d'un genre nouveau en littérature, les témoignages, à propos desquels Elie Wiesel faisait la remarque suivante. Si les Grecs ont inventé la tragédie, les Romains la correspondance et la Renaissance le sonnet, notre génération a inventé un nouveau genre littéraire, le témoignage. Alors, sans doute peut-on porter témoignage de diverses manières dans un roman. Mais à considérer comme un témoignage tout roman sur lequel plane l'ombre portée de l'histoire récente, on risque de passer à côté de toute une catégorie d'ouvrages, à savoir les récits des témoins directs, précisément, les témoignages au sens strict, dont je donne tout de suite une définition. Le témoignage comme genre littéraire, c'est-à-dire pourvu d'éléments de caractérisation valant pour son usage en littérature, hein, étant entendu que cette définition n'épuise pas, loin de là, la totalité des sens de ce mot, le témoignage comme genre littéraire, donc témoignage volontaire s'il en est, peut se définir comme un document rédigé par le survivant d'une violence politique extrême qui, s'acquittant d'une promesse contractée durant l'épreuve auprès de camarades dont la plupart ne sont pas revenus, passe à l'acte d'écrire pour attester les faits dont il a été témoin. Habilitant sa propre parole selon un protocole d'attestation personnelle codifié, il décrit ce qu'il a vu, entendu, senti et pensé sous les souffrances qui lui ont été infligées par l'homme, afin d'instruire les générations présentes et à venir de ce qui a eu lieu et ainsi de faire obstacle à la négation, c'est sa fonction d'attestation, d'honorer la mémoire des disparus et d'apaiser les fantômes de sa conscience en creusant une tombe pour y enfouir ses morts, c'est sa fonction d'hommage. Le témoignage remplissant également une fonction critique, hein, puisqu'il s'agit tant de s'interroger sur le sens de l'événement et sur la possibilité d'en rendre compte que de mettre face à leurs responsabilités les bourreaux justiciables, et une fonction d'éducation. Les témoins donnent aux vivants les moyens de la réflexion en les faisant profiter d'un savoir acquis au gros d'une expérience d'anéantissement qui concerne l'humanité entière. Ce projet éthique d'opposer à la tentative de destruction de l'humain et de la culture une exigence de vérité dessine en creux un programme esthétique qui explique qu'à la question « qu'est-ce qu'un témoignage ?», Georges Perec réponde en 1963 que c'est l'exemple le plus parfait de ce que peut être la littérature. Alors, cette circonscription de notre objet permet d'une part d'échapper au confusionnisme qui pèse parfois sur la littérature dite de témoignage, hein, qui contient des textes au statut générique très différent, et d'autre part de redonner une existence à ces récits de témoins dont le statut fait problème. Hein, situés aux confins de trois discours, historiques, juridiques et littéraires, les récits des témoins n'ont longtemps obtenu droit de cité dans aucune discipline. Le genre a beau recéler quelques chefs-d'œuvre, parmi lesquels L'espèce humaine de Robert Antelme, qui a fini par trouver une notoriété tardive dans le sillage de Si c'est un homme de Primo Levi, lui-même traduit en français 40 ans après sa parution en Italie, la quasi-totalité du corpus demeure méconnue. Pour rendre justice à ces textes, les arracher à la nuit qui les couvre et rendre compte de leurs enjeux de la manière la plus satisfaisante possible, je me propose de décrire la manière dont le témoignage s'est constitué comme genre au XXe siècle, c'est-à-dire de reconstituer une lignée générique. Parlant au nom des survivants des camps, auteurs de témoignages, Elie Wiesel revendique pour lui-même et pour eux la paternité du genre testimonial, qu'il fait donc naître aux alentours de 1945. Je proposerai pour ma part une autre hypothèse. Ce que je vais essayer de montrer ici, c'est que l'avènement sur la scène éditoriale française d'une catégorie de textes proprement testimoniaux, donc distincts à la fois du roman, de l'autobiographie et des mémoires, notamment, se situe plutôt au moment de la Première Guerre mondiale, précisément. Par le déferlement de violences inouïes qu'elle constitue, celle-ci initie des problématiques qui, certes, ressurgiront avec la Seconde Guerre mondiale et l'extermination, notamment celles qui concernent les modalités de leur représentation discursive, mais qui s'inventent dans le brasier de la Grande Guerre avec l'émergence de pratiques d'écriture qui sont au fondement du genre. Je précise enfin que je m'appuie sur une définition sémantique du genre conçue comme pratique sociale, hein, considérant qu'un genre, fût-il littéraire, se définit par la manière dont un projet spécifique relatif à un contexte socio-historique particulier accouche d'une textualité particulière qui détermine tant les contenus investis que les modalités énonciatives et évaluatives, la disposition séquentielle du signifié ou encore le système de la temporalité. On n'a pas toujours la possibilité d'examiner la manière dont un genre advient à l'existence. Il me semble que dans le cas du témoignage, l'histoire de son avènement peut être en partie retracée. C'est ce que je vais tenter de faire ici. Alors, je procéderai en deux temps. Je reviendrai dans une première partie sur ce moment que j'identifie comme étant celui de la genèse du genre testimonial, à savoir la Première Guerre mondiale. Je me pencherai sur la réflexion qui a accompagné l'apparition de ces textes d'un genre nouveau et sur la bataille critique qui s'en est suivie dans le champ littéraire français de l'entre-deux-guerres, hein, bataille qui constitue un beau spécimen de guerre littéraire par sa violence et par les thèmes débattus. Je tenterai dans une deuxième partie de démontrer la dimension matricielle de la Grande Guerre concernant ce genre du témoignage, d'abord parce qu'elle a constitué le premier acte d'une histoire du genre tourmentée, qui, après 1945, peut donner l'impression de se répéter. Dimension matricielle ensuite, car c'est là que se mettent en place les principes fondamentaux du genre. Alors, plusieurs facteurs se conjuguent pour expliquer que le témoignage soit advenu dans le sillage de la Première Guerre mondiale. Le bilan humain effroyable, 10 millions de morts, 20 millions d'invalides, d'une guerre qui malmena l'ordre social en place, et le consensus idéologique qui le fondait, les effets ravageurs de la puissance de feu qui induisent de nouvelles manières de souffrir et de mourir à la guerre, dont les combattants se font le serment de témoigner s'ils en réchappent, témoignages d'autant plus nécessaires qu'ils font l'expérience douloureuse d'un double décalage. Décalage entre la guerre qu'ils imaginaient d'après ce qu'ils avaient lu et entendu avant 14, la littérature ici pour eux a sa part de responsabilité, et ce qu'ils découvrent au front. Décalage également entre les discours que la société continue de produire et d'accréditer concernant les événements en cours et ce que eux perçoivent de cette guerre qu'ils sont en train de faire. Comme le souligne Max Deauville dans « La boue des Flandres », il y a urgence à écrire car, je le cite, « si nous nous taisons, d'autres viendront qui dénatureront les faits. Ils nous dépeindront la guerre sous des couleurs rutilantes. Ils feront apparaître à nos yeux une fresque magnifique. Ce n'est là qu'un jeu pour les poètes. Par des images colorées, des phrases, des mots sonores, ils nous décriront notre époque sous un jour tel que nous voudrions y revivre. Prenons garde. Autour de nous se lève la phalange redoutable des imposteurs. Et si par malheur quelqu'un d'entre eux a du génie, il fera naître chez nos descendants le désir de revivre une époque semblable à la nôtre. » Fin de citation. Prévenir les hommes contre la guerre, en leur donnant une idée exacte de ce qu'elle est, ainsi s'énonce le projet testimonial. Alors, autre facteur qui explique l'apparition du témoignage à ce moment-là, le grand nombre d'appelés engagés dans le conflit, des civils et non des militaires de carrière, de tous âges et de tous milieux sociaux. En France, où furent d'emblée mobilisés 4 millions d'hommes, cette guerre longue impliqua une armée composée de citoyens instruits grâce aux progrès récents de l'alphabétisation et donc capables de narrer leur expérience. Près de 95% des poilus savent lire et écrire. Le grand nombre de textes produits, également, tous genres confondus, avec une nette prédominance de l'épistolaire, hein, plus de 10 milliards de lettres échangées en 4 ans. À ces différents facteurs s'en ajoute un autre, tout aussi essentiel. C'est pendant la Grande Guerre que le témoignage comme genre littéraire commence à faire l'objet d'une réflexion critique, celle-ci apparaissant comme consubstantielle au genre. Cette réflexion est le fruit de l'entreprise critique d'un homme, Jean Norton Crewe, professeur de lettres né en Ardèche, enseignant aux États-Unis, qui passa 28 mois dans les tranchées et 15 ans à s'interroger sur la forme que ses compagnons d'armes avaient choisi de donner à leurs écrits. Jean Norton Crewe s'emploie, dès son arrivée au front en 14, à repérer les récits de combattants qui rendent le mieux compte de l'expérience qu'ils sont en train d'endurer, hein, puisque tel est l'enjeu, comme on vient de le voir avec Max Deauville. Or, quelle n'est pas sa surprise de constater que les légendes de guerre et autres fausses nouvelles qui fleurissent dans la presse à destination de l'arrière se retrouvent aussi sous la plume des poilus qui, intoxiqués par la mystique guerrière, dépeignent une guerre flamboyante dans des récits épiques qui empruntent beaucoup à la légende napoléonienne et rendent mal compte de la réalité de leurs souffrances, perpétuant par là même le mensonge sur la guerre qui sévit depuis la nuit des temps et qui fait son prestige. Jean Norton Crewe en déduit que tous les témoignages ne se valent pas et se lance dans un travail d'expertise de grande ampleur fondé sur sa propre expérience de la guerre et sur une analyse philologique serrée de tous les livres de combattants parus entre 1915 et 1928, 304 ouvrages au total, écartant d'emblée de son corpus les non-témoins, hein, les auteurs qui prennent la guerre pour objet sans en avoir une connaissance directe. Le résultat de ces analyses est publié donc en 1929 dans un gigantesque ouvrage critique intitulé « Témoins », 727 pages, 2 kg 2, qualifié par Albert Thibaudet de « réussite littéraire ». Alors, que ressort-il de cet ouvrage pionnier en matière de critique du témoignage ? D'abord, que tous les combattants ayant écrit ne se sont pas astreints à la même fidélité aux faits dans leur description de la guerre. C'est-à-dire que parmi ceux qui ont vu, même brièvement, il y a de plus ou moins bons témoins, plus ou moins bons observateurs, dotés d'une mémoire plus ou moins fidèle, plus ou moins bons écrivains aussi. Partant, l'ensemble des témoignages forme un continuum qui va du récit le plus lucide, le plus probant historiquement et le plus puissant littérairement, au texte le plus douteux, le plus perméable aux erreurs ambiantes, le plus chargé idéologiquement. Il apparaît ensuite que, dès lors qu'il s'agit de donner une idée claire de ce que fut l'expérience endurée, tous les genres ne se valent pas. Ce terme de « valeur » étant à prendre dans son sens linguistique. La totalité des textes de témoins considérés par Crewe forment un système au sein duquel la valeur de chacun dépend de l'existence et du contenu respectif de tous les autres. Les journaux, en particulier, valent souvent mieux que les romans, dont les auteurs sont trop vite rattrapés, montre Crewe, par les lieux communs du roman de guerre et de l'épopée, j'y reviendrai. Il apparaît enfin que certains ont tout de même entrepris de faire connaître aux vivants le visage de la guerre réellement vécue, renonçant au thème de légende et aux artifices littéraires en vigueur, au premier rang desquels les scènes sensationnelles, le lyrisme guerrier et tout le pittoresque qui entoure le personnage du combattant, de l'argot des tranchées au sentiment belliqueux en passant par son goût pour le corps à corps. Ils s'en sont tenus à la description de leur expérience propre, façon pour ces hommes meurtris de reprendre barre sur l'événement qui les a broyés en l'empêchant de continuer à se raconter lui-même. Leur insoumission à la tradition poétique et l'esthétique du dépouillement qu'ils pratiquent suscitent l'admiration de Jean Norton Crewe, qui entreprend de démontrer dans Témoins la valeur à la fois documentaire et littéraire des meilleurs témoignages. Alors, le projet testimonial se formule dans les préfaces autographes, non sans tâtonnement. La démarche qui consiste à publier le récit de sa guerre ne va pas de soi. Je cite par exemple celle de Jacques Meyer dans La Bif. « Je n'ai voulu faire ni une œuvre documentaire ou historique, ni une œuvre à tendance. Ma seule intention, quand j'ai relu et corrigé si peu ces bouts de papier chiffonnés, fut d'apporter, comme un témoin au sens fort du mot, en reflétant la nudité de la chose vue, l'hommage dû à ces hommes. » L'hommage aux morts, qui est une des fonctions du témoignage, prend dans ces textes des formes modestes, quelques « je me souviens » insérés dans des notes de bas de page qui fonctionnent comme pierre tombale, manière de prendre le contre-pied de l'éloge funèbre, considéré comme un genre contaminé par l'idéologie militariste des grandes pompes patriotiques. Un genre se construit aussi, hein, on le voit là, dans une opposition à d'autres genres. Le témoignage contenant par ailleurs une critique de l'article de presse, du feuilleton, du compte-rendu militaire, du roman de guerre et des mémoires. Les mémoires qui sont un genre plus aristocratique. Hein, les témoins, eux, voient l'histoire d'en bas. Hein, ils n'ont pas d'image d'eux-mêmes à asseoir dans leur texte. Peu soucieux d'immortaliser leurs exploits, réels ou fictifs, les auteurs que repère Jean Norton Crue ont osé dire leur peur et se sont attachés à décrire la guerre telle qu'elle est, inélégante, âpre, sale et laide, comme dit Maurice Genevoix dans Nuit de guerre, dénonçant d'un même geste ses horreurs et le mensonge dont se nourrit la propagande guerrière, ce qui leur valut d'être souvent censurés. Dans Témoins, puis dans Du témoignage, tout petit livre paru l'année suivante en 1930 dans lequel Crue résume les conclusions de son premier ouvrage. Jean Norton Crue donc démontre qu'en faisant véritablement œuvre de témoin, ces hommes ont fait œuvre. Une œuvre originale qui les distingue à la fois du combattant resté prisonnier des images d'Épinal et de l'artiste hanté par la mode littéraire, les procédés, le désir d'obtenir des effets. Par cette double démarcation, le témoin véritable est en même temps un véritable écrivain. Alors, je m'arrête un instant sur la méthode d'expertise de Jean Norton Crue, car on verra plus tard qu'elle a fait l'objet d'attaques violentes. Il s'agit d'une méthode contrastive qui prend en compte un faisceau de critères situés à différents niveaux d'analyse. Date de rédaction de l'ouvrage, durée du séjour au front, état de service de l'auteur, genre et longueur du texte, ordonnancement du récit, récurrence de certains motifs et absence de certains autres, choix de contre-modèle générique, etc. Critères que Jean Norton Crue considère simultanément pour évaluer chaque texte en fonction de tous les autres existants. Cela permet d'abord de montrer que les meilleurs témoignages sont ceux des combattants qui ont été le plus longuement exposés au danger. Cela permet ensuite que se dégagent, par recoupement systématique, des constellations sémantiques. Ainsi, pour s'en tenir au plan thématique, les mauvais témoins se repèrent à ce qu'ils ressassent toujours les mêmes motifs, particulièrement efficaces, il faut le dire. Les charges olympiques, le choc de cavalerie contre cavalerie, les massacres à la baïonnette, alors que les blessures à l'arme blanche représentent 0,3% des blessures pendant la Grande Guerre, mais justement, tout est affaire de proportion dans le témoignage. L'affluence d'espions, la haine de l'ennemi, les images horrifiques, l'abondance de fluides et de sécrétions, hein, des excréments au fleuve de sang, eux-mêmes indissociables des monceaux de morts, la supériorité du combattant français, indestructible, et l'impuissance des obus allemands, la comparaison entre l'ivresse guerrière et les plaisirs de la volupté, les balles doum-doum qui font exploser les os, les bombardements qui vous projettent bouche à bouche contre un cadavre, la guerre décrite chez Barbus, en l'occurrence, comme une immense aventure, et la bataille comme un sombre et flamboyant orage rehaussé de nappes de sang vermeil qui grésillent, les scènes de cannibalisme ou de musée Grévin, quand le souffle d'une explosion immobilise les soldats et que leurs cadavres prennent la pose pour l'éternité, hein, ce qui donne un petit côté herculanum aux descriptions, avec un sous-texte idéologique, puisque les morts, dans ce cas, sont toujours allemands et qu'il s'agit par là même de signifier que les Français tirent plus vite que leur ombre. Alors, je cite Jean Norton Crue, c'est... Ces fantastiques exagérations se trouvent dans tous les récits des narrateurs suspects. Récits dans lesquels on ne dit rien, par ailleurs, de la peur du soldat, du calvaire de la pluie, etc. Un genre se spécifie aussi par l'absence de certains thèmes. Alors, il est évident que chacun de ces éléments n'est pas disqualifiant en lui-même. Il le devient à partir du moment où il entre en interaction avec plusieurs autres, repérés par ailleurs comme étant des indices de mauvais témoignages selon un principe de co-occurrence linguistique. Car, affirme Jean Norton Crue, il est inexact que le langage du front ait toujours été grossier, que les uniformes aient toujours été boueux et en lambeaux, que les objets macabres se voyaient tous les 10 mètres dans la tranchée. Pour le dire autrement, l'intertextualité forte qui règle les rapports entre les témoignages non fiables s'explique par le fait que ce sont les éléments les plus spectaculaires qui se braconnent d'ouvrage à ouvrage. Spectaculaire la pluie ne l'est guère, et pourtant, insiste André Pézard dans « Nous autres à vos quoi », que Crue tient pour l'œuvre la plus remarquable de toute la littérature de guerre après celle de Genevoix, pourtant, le fait est que les soldats sont plus malheureux de la pluie que de leurs blessures. Dans la même perspective, Crue montre que l'inexactitude des descriptions va de pair avec les incohérences et les contradictions. Dans « Les croix de bois » de Dorgelès, par exemple, la troupe gagne 10 hommes au cours d'une attaque. et avec une trame narrative qui dénature les faits. Les mauvais témoins, estime Cru, n'hésitent pas à trahir la guerre en la découpant en chapitres de romans feuilletons. Cette trahison a d'autant plus de succès que le public, dit-il, y retrouve ses épisodes favoris. Et l'auteur de témoins de lancer un appel. Unissons-nous contre cette fausse littérature et faisons-lui une guerre acharnée. Les poilus ont écrit assez de belles pages pour de vérités vécues pour la remplacer. Il ne s'agit que de se rendre compte qu'elles existent. Ce qui nous amène directement à la question de la réception de ces textes et de l'ouvrage qui les défend. Celle des témoignages eux-mêmes. D'abord, cette réception fut mauvaise. Les modestes écrits d'un Jean Bernier, d'un Paul Lintier ou d'un André Maillet font pâle figure face aux romans de guerre qui battent alors tous les records de vente. Trois, surtout, dont Jean Norton Cru se désespère qu'ils soient les favoris de la foule. Gaspard de René Benjamin, Goncourt 1915, Le Feu de Barbus, Goncourt 1916, et Les Croix de Bois de Dorgelès, Prix Fémina 1919. Je cite Cru pour qu'on comprenne bien son propos. Le succès étourdissant des Croix de Bois m'attriste et m'inquiète. Jadis, le public voulait une guerre romancée, avec drapeaux déployés et flamberges au vent. Aujourd'hui, il aime une guerre non moins romancée, avec boyaux d'allées de mort aux grimaces infernales et baisers aux cadavres. Ce n'est pas un progrès. L'humble vérité est aussi loin du réalisme artificiel que de l'épopée. Mais qui a lu les récits vrais ? Comme des moutons de panurge, les Français se sont précipités à la suite du premier qui a signalé les Croix de Bois, dont la lecture, au lieu de rectifier leurs idées, corriger leurs goûts, n'a fait que renforcer les erreurs et développer l'appétit pour le sensationnel et le macabre, les mots fabriqués et les pseudo-poilus à la sulfare. À l'origine du témoignage, il n'y a donc pas d'impossibilité du dire, de l'indicible, mais une impossibilité manifeste de se faire entendre pour ces auteurs qui ne sont pas des écrivains professionnels et qui n'ont pas pour projet d'écrire un roman. Je cite Cru, « La retenue de leur style, la propre simplicité de leur récit nuisit à la reconnaissance de leur mérite et leur voix discrète se trouve à étouffer dans le tumulte des vantardises héroïques ou des dénonciations sensationnelles. » C'est l'un des objectifs de témoins que de leur permettre de se faire entendre. De fait, cet ouvrage fit l'effet d'une bombe dans les milieux littéraires de l'entre-deux-guerres. La bataille critique qui s'ensuivit compte parmi les moments clés de la jeunesse du genre. L'attaque que ce petit professeur de lettres a osé porter contre les romanciers primés de la Première Guerre mondiale, au profit de simples témoins, met en fureur les spécialistes de la chose littéraire qui voient en Jean Norton Cru, bizarre collectionneur de récits sans panache, la lèpre incurable des créateurs. Barbus, dont la réaction est attendue, intervient assez tôt pour corriger ce pédant pédagogue américain qui ergote comme les avocats épileptiques de mauvaise foi. Mais c'est Roland Dorgelès, qui vient d'intégrer l'Académie Goncourt et dont la popularité est à son comble, qui organise la riposte, taxant l'ouvrage de Cru de stérile passe-temps de maniaque. Et Dorgelès de se gausser de ses souvenirs insignifiants, je le cite, ces pauvres reliques que des survivants vieillis sortiront un jour du tiroir et qui n'ont d'intérêt que pour leur signataire. Il leur oppose son propre projet créatif, lui a préféré jeter au feu ses carnets et composer son roman à partir de souvenirs diffus. Se déprendre donc de sa propre expérience pour mieux embrasser celle des autres. Je le cite, « J'avais une ambition plus haute, ne pas raconter ma guerre, mais la guerre. » Et Dorgelès de considérer sa démarche comme la seule permettant de porter véritablement témoignage. Derrière ces deux projets, se profilent deux conceptions de la littérature. Pour Ernest Florian Parmentier, auteur du roman « L'ouragan », paru en 1920, qui n'est certes pas épargné par Cru dans son ouvrage, non seulement les témoignages que Jean Norton Cru promeut n'ont aucun intérêt, mais pour Florian Parmentier, donc, Témoin est une œuvre dangereuse en ce qu'elle met l'art d'écrire à la portée du premier venu. Cette démocratisation de l'écriture produit, selon lui, de l'industrialisme moderne dont Cru, qui s'est établi en Amérique, est directement imprégné, doit être combattu. Je le cite, c'est contre cela que nous, écrivains français, devons nous insurger. Les romanciers sont bientôt rejoints dans leur croisade par les critiques pour qui la littérature n'a que faire de la vérité historique. Pierre Imbourg clame que le public se fiche des témoins et que si dans une phrase 77e de ligne sonne moins bien que 12e, il faut prendre 12e. La convenance exige que l'on fasse plier le réel aux exigences de la littérature, qui consiste précisément, la littérature, dans ses réajustements artistiques. Pour Pierre Cise, critique au canard enchaîné, qui traite Jean Norton Cru de fou et qui lance contre lui un appel aux armes à toute la profession, c'est uniquement de la littérature, entendez, du roman, paré de toutes les vertus transfiguratrices, que peut sourdre ce qu'il appelle la survérité de notre guerre. Et peu importe que cette survérité contredise la réalité des faits, car, comme l'écrit Émile Mayer, je le cite, « en accumulant les inexactitudes, le grand écrivain arrive pourtant à l'exactitude ». C'est donc un fait incontestable pour la presse littéraire de 1930, qu'André Terrive énonce ainsi dans Le Temps, « le témoignage de 100 000 Tartempions ne vaut pas la demi-fiction conçue par un grand homme ». Et Terrive, de prédire a cru qu'en tout état de cause, ce livre visant à dénoncer des impostures romanesques serait désagréable à tout le monde, car, je le cite, « la foule aime à être trompée comme certaines femmes à être battues ». Bref, le public prise les mensonges et le romancier a vocation à lui donner ce qu'il réclame. Et quand les détracteurs de Cru furent à court d'arguments, les insultes fusèrent. Témoin fut taxé d'incomparables monuments de bêtises dégageant le parfum de l'huile rance et de la vesse sorbonique. On traita Cru de contempteur de l'art, de corpusculaire historien, de malfaiteur, de bourreau, de pédant expatrié, de nigaud du fichier et de paix de loup, descendant d'une longue lignée de parasites. On se moqua de son nom et l'on composa sur lui des chansons « Je suis le Cru tout nu qui n'a rien vu ». Pas de doute, on était bien entré dans les années 30. Jean Norton Cru trouva quand même du soutien. Alors, du côté de certains historiens, Pierre Renouvin, qui perdit un bras au chemin des dames, lui emboîte le pas. Il demande, je cite Pierre Renouvin, « Que vaut le témoignage de tel écrivain combattant si son curriculum vitae prouve qu'il n'a pas assisté aux événements dont il prétend donner le récit ?» L'idée qu'il n'y a pas de témoignage sans témoin commence à faire son chemin. Jules Isaac, ancien combattant également, suggère que lorsque l'écrivain de race, ce sont ses mots, prend des libertés avec les faits pour parvenir à une vérité de qualité supérieure, il se donne avant tout les coups des franges pour pouvoir broder à sa façon, sans parvenir nécessairement à la survérité promise, et en contribuant dans la plupart des cas à diffuser une vision faussée de la guerre. Le soutien est venu de certains critiques également, Albert Thibaudet, Lucien Maury, Daniel Mornay, directeur de la revue d'histoire littéraire et auteur de Tranchées de Verdun, que Cru tient pour un modèle de témoignage. Daniel Mornay confirme qu'il ne se trouve pas plus de vérité sur la guerre dans Le Feu de Barbus que dans Le Comte de Barbe Bleue. J'en puis témoigner puisque j'ai vécu 22 mois dans le même bataillon où Barbus a vécu. En relisant Le Feu, j'y retrouve aussi peu l'image de mes camarades que Barbus ne saurait retrouver la société soviétique dans les réceptions de la duchesse d'Uzesse. Et je pourrais, sans repasser par aucune des démonstrations de Monsieur Cru, rendre comme lui sensible les trucages, les mises en scène ou les fièvres hallucinées d'un prophète pour qui la tragédie du front devient une sorte d'apocalypse démoniaque. André Ducasse également affirme dans Libre Propos, la revue du philosophe Alain, que les ouvrages promus par Jean Norton Cru surpassent en émotion et en beauté les fictions romanesques. Et Alain lui-même, auteur de Mars ou la guerre jugée, rendra hommage à Cru dans Suite à Mars. Il dira « J'ai lu le Vauquois de Pézard et je comprends mieux encore à présent le célèbre Norton Cru que la critique a si fort malmené ». Benjamin Crémieux, spécialiste de Proust, qui mourra à Buchenwald et auquel David Rousset consacrera un chapitre de l'univers concentrationnaire, se félicite de l'existence de cet instrument de discernement en quoi consiste témoin. Monsieur Jean Norton Cru a dissocié les idées toutes faites sur le combat et le combattant avec autant de pénétration que Marcel Proust a dissipé les idées toutes faites sur l'amour. Alors, je conclus cette première partie en disant que le travail de grande ampleur accompli par Jean Norton Cru, qui démontra l'intérêt documentaire et littéraire que recélait l'éloquence maigre de la prose testimoniale, constitue une étape essentielle du processus qui fit sortir le témoignage du prétoire et le fit entrer en littérature. Mais, à une époque où une grande part de la vie littéraire consiste en une course au prix arbitrée par des critiques tout acquis à la cause du flamboiement et de la grandeur nationale, qui mesurent la qualité d'une œuvre à sa virtuosité et confondent vérité et littéralité plate, très peu comprirent le sens du projet de Cru. Témoin ne connut aucune réédition pendant plus de 60 ans, du témoignage fut brûlé par les nazis à leur arrivée au pouvoir. On oublia cette réflexion sur les récits des témoins, comme on oublia les témoignages eux-mêmes, condamnés, je cite Maurice Genevoix, à se perdre et s'ensabler dans un désert d'indifférence. Nonobstant, le caractère matriciel qu'a représenté la Première Guerre mondiale pour le témoignage se mesure à la postérité du genre. Alors, je vais plus vite dans cette deuxième partie. Le témoignage réapparaît en 1945. Là encore, les survivants des camps seront pris par un désir, enfin, seront pris d'un désir frénétique de dire leur expérience telle qu'elle, pour reprendre les mots d'Anthelme. Là encore, ceux qui tiendront leur promesse de témoigner verront se réaliser leur pire cauchemar, puisqu'on ne refusera pas seulement de les croire comme ils l'avaient craint, on refusera de les entendre. La publication de témoignages s'interrompt brutalement 3 ans après la fin de la guerre. Là encore, des critiques viendront à la rescousse des témoins. Claude Roy, par exemple, qui prend acte dans Europe en 1946 du bouleversement qu'induisent les témoignages. Je le cite, « Il me semble qu'on ne peut plus lire un livre comme on lisait avant, autrefois, dans l'ancien monde, un livre pour le plaisir, un livre pour oublier, un livre pour passer le temps. Oui, ces textes atrocement beaux, c'est là qu'il faut chercher la mesure de toute écriture. Ce qu'il faut savoir d'un livre, d'un poème, d'un essai, c'est s'il tient le coup devant ces documents. » Mais là encore, le public privilégiera les romans, si bien qu'on voit peu à peu renaître au début des années 50 le débat qui avait opposé Jean Norton Crue aux critiques de l'entre-deux-guerres. Jean Cayrol, survivant de Mauthausen, monte au créneau pour défendre dans la revue Esprit ces livres essentiels que sont les témoignages qui tranchent avec ce qu'il appelle le folklore de l'extermination, dont il repère les ingrédients dans certains romans à succès de l'immédiate après-guerre, La mort est mon métier de Robert Merle notamment. À 25 ans de distance, les cibles de Jean Norton Crue et de Jean Cayrol sont d'ailleurs parfois les mêmes. Erich Maria Remarque est critiqué par Crue pour « À l'Ouest, rien de nouveau » et par Cayrol pour « L'étincelle de vie » qui met en scène le camp fictif de Mellon. Jean Cayrol déplore qu'Anthelme, quant à lui, n'ait pas été lu et alerte les esprits. Du moment où un homme de lettres refait un camp de concentration à sa guise et en suivant sa propre imagination, il a toutes les chances de recueillir la confiance des lecteurs. Quant aux témoins, on ne leur demanda que de prêter serment et de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, et on ne les crut pas. Ainsi se rejoue, après 1945, une partie des débats qui avaient agité les milieux littéraires de l'entre-deux-guerres. Aux romanciers à succès, maîtres de l'épouvante lucrative, s'opposent les défenseurs du témoignage, survivants, critiques ou historiens, qui, depuis 14, dénoncent les pratiques suspectes de certains romanciers et leur opposent les vertus de l'entreprise testimoniale. Alors, il faudra attendre la guerre d'Algérie pour que le témoignage réapparaisse sur le devant de la scène avec la parution en 1958 de La Question d'Henri Allègue. La torture pratiquée par l'armée française y est décrite en détail par quelqu'un qui l'a subie. Grâce aux éditeurs prêts à relayer leurs paroles, Lindon et Maspero en particulier, les victimes peuvent révéler les violences qu'elles subissent presque en temps réel, la guerre d'Algérie apparaissant à cet égard comme une véritable guerre du témoignage. Cette année 58 constitue d'ailleurs une année cruciale dans l'histoire du genre, puisque Minuit publie, outre La Question, La Nuit d'Elie Wiesel, L'espèce humaine est rééditée chez Gallimard, et Si c'est un homme, chez Einaudi, en Italie. Un conte très ordinaire de Micheline Morel, qui est préfacé par Mauriac, reçoit le prix des critiques. Le témoignage, à ce moment-là, devient un genre littéraire avec lequel il faut compter, même si ces publications ne coïncident pas, loin de là, avec l'exhumation de tous les témoignages qui étaient parus depuis 1945 et même depuis 1914. Les romans de Barbus et d'Orgelès constituant encore aujourd'hui la référence principale concernant la Première Guerre mondiale. Et quant aux témoignages algériens, outre qu'ils se sont finalement heurtés à un oreiller de silence, pour reprendre l'expression de Vidal-Naquet, la quasi-totalité d'entre eux sont aujourd'hui oubliés et n'ont jamais intégré les corpus littéraires. Tout cela incite à se montrer prudent donc, vis-à-vis de la formule consacrée d'air du témoin, qui ne saurait valoir, en tout état de cause, pour le témoignage, comme genre littéraire. Témoignage comme genre littéraire qui se caractérise depuis 14, j'en viens pour finir à poser quelques éléments de description du genre, par la mise en place d'un contrat testimonial, ce pacte que l'auteur scelle avec son lecteur à l'orée du texte et qui vaut une main levée. Le témoin s'engage à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le témoignage littéraire se soutenant, comme la déposition en justice, de la fonction probatoire du « j'y étais », du « j'ai vu » et du « je le jure ». Formule rituelle qui cuirasse le texte et établisse une assumption forte. Je parle de contrat testimonial et non de pacte autobiographique, car le témoignage et l'autobiographie sont deux genres distincts, précisément. Le témoin ne raconte pas sa vie, il décrit les conditions de la mort des autres. Cette différence a des incidences nombreuses au plan lexical et morphosyntaxique, et notamment celle-ci. Le témoignage ne s'écrit pas à la première personne du singulier comme l'autobiographie, mais à la première personne du pluriel. Le « nous » domine ces textes qui se ressentent de la dissolution du « moi » dans le temps de l'expérience. Ce contrat testimonial se sous-tend d'un pacte avec les morts qui fait du survivant un témoin mandaté, soumis à un certain nombre de devoirs, s'en tenir à son expérience propre, s'exprimer clairement, ne rien exagérer, ne pas chercher à se faire valoir dans son texte, ne pas esthétiser les choses pour le plaisir du lecteur, mais ne pas non plus le violenter en cherchant à exercer sur lui des effets de sidération qui inhiberaient la réflexion. Devoirs qui donnent au témoin des droits, le droit à l'erreur, hein, le témoin écrit un texte de bonne foi, mais il a bien conscience que sa mémoire peut le jouer, le droit de ne pas être original, hein, les témoins pratiquent un refus de la distinction qu'ils érigent en principe, le droit de n'être personne, hein, les témoins ne comptent pas comme les mémorialistes parmi les grands hommes de leur temps. Partant, le témoignage se caractérise par sa sobriété, qui trouve sa source dans l'expérience même du témoin, hein, dont le récit vise à rendre sensible l'effondrement des repères spatio-temporels, ce qui a des conséquences nombreuses au plan narratif. Hein, donc, rapidement, d'un point de vue spatial, d'abord, le témoin renonce à toute vision panoramique qui tendrait à faire croire que la guerre peut être un bel et beau spectacle, et s'en tient à ce qu'il a personnellement perçu. L'événement guerre s'en trouve par là même déconstruit. Il n'est plus hypostasié en amont de la narration et posé comme quelque chose qui irait de soi. C'est au lecteur de le reconstruire à partir, des descriptions proposées. Et puisque l'événement ne se voit plus, pas plus que la guerre ne se voyait pour ceux qui la faisaient en 14, les mots qui le désignent se trouvent un à un soumis à la critique. Hein, le mot « bataille », par exemple. Personne ne s'est battu en 14, affirment les témoins. On redoutait la mort dans l'angoisse, puis on mourait. Hein, le genre assumant par là une mission de démythification. Au cœur du témoignage, conçu comme un acte d'accusation contre la guerre et ses représentations, on trouve une critique du mythe, hein, celui par exemple de la race française. Je cite Jean Bernier dans La Percée, ce mythe de la race française qui permit que chaque jour, jour après jour, la compagnie accomplisse son holocauste pour la satisfaction de quelques chefs. Substituer au mythe des explications qui soient de notre monde et non en dehors de l'histoire, telle est la vocation du témoignage qui est un contre-récit. Privé de spectacle, le lecteur du témoignage est aussi privé d'histoire. Car si la chronologie sert en général de fil directeur au récit testimonial sur le principe de la déposition en justice, elle ne saurait suffire à garantir la mise en place d'une intrigue. Du défaut de clôture, hein, le récit est suspendu plus qu'il ne s'achève, de l'absence de hiérarchie entre les faits consignés, qui fait qu'il n'y a pas vraiment de détails dans le témoignage, tout est sur le même plan, et de la défaillance de la temporalité, déjà sensible dans les textes des poilus. Cette défaillance devient centrale ensuite dans les récits de déportation. Le processus est progressif, hein, la victime s'invente d'abord une série de dénouements possibles, bientôt on sera chez soi. Puis, à mesure que les souvenirs de la vie d'avant pâlissent, ces projections cessent, autrement dit, la fin s'éloigne en même temps que le début, et dans la béance ainsi ouverte, règne une indistinction temporelle qui fait échec à l'événementialité. C'est un temps de la récurrence où rien n'arrive, où plus rien ne peut se produire, temps du tube digestif et du corps qui se mange, dira Pérec, temporalité de la moisissure où l'histoire ne prend pas et où le récit se résorbe dans l'itératif. C'est cela, à vrai dire, qui faisait dire à Jean Norton Crue que l'horreur n'est pas une matière littéraire propre à alimenter une narration classique, et à Jean Kerol que l'expérience concentrationnaire ne peut fournir la trame achevée d'un roman. L'argument n'est pas platement moralisateur, il se fonde sur la vérité de l'expérience que l'on ne peut tailler comme un jardin à la française sans la trahir, dans la mesure où cette défaillance de la temporalité est précisément le mode sur lequel s'éprouve l'horreur au quotidien. Ainsi, ce que les défenseurs du témoignage reprochent aux romanciers qui prennent la guerre ou les camps pour sujet ou pour cadre, sans soupçonner que l'horreur puisse consister précisément dans ce temps amorphe du traumatisme, c'est de s'emparer d'une matière première, un peu gluante et poisseuse aux doigts, disait Kerol, d'en extraire ce qui fait le plus guerre ou ce qui fait le plus concentrationnaire, et d'improviser à partir de là quelques scènes bien senties, alors qu'en s'astreignant à dire leur expérience telle qu'elle, à dire sans tricher ce malheur mou, ce malheur bête où il patauge, hein, la formule est de Georges Hiverneau, les témoins ont inventé une manière de narrer l'expérience du pire qui renouvelle jusqu'aux critères de la littérarité. Pour conclure, je soulignerai l'intérêt de l'approche générique, hein, qui permet d'observer l'évolution d'une pratique d'écriture circonscrivant un projet spécifique. spécifique. Entre le poilu qui confie son angoisse de mort à son journal, les rescapés des camps nazis qui rédigent leurs témoignages dans le sillage du procès de Nuremberg et le supplicié des gardes de décolonisation qui en appelle à l'opinion publique dans un livre publié, il y a des similitudes qui spécifient génériquement ces textes par-delà leur diversité apparente. Décrire le genre donc permet de mettre au jour un corpus, d'étudier le discours critique dont il a fait l'objet en diachronie et ainsi d'éclairer un pan oublié de l'histoire du XXe siècle. Ce travail de mise en valeur est d'autant plus nécessaire que le témoignage ne bénéficie toujours pas d'une pleine légitimité littéraire, 100 ans après le début de la Grande Guerre. Souvent réduits à leur aspect documentaire, les témoignages peinent à être véritablement lus en tant qu'œuvre, et ce, malgré le changement de paradigme annoncé après-guerre par les plus clairvoyants et malgré l'influence que les œuvres testimoniales ont pu avoir sur la littérature d'après 1945. Décrire le genre testimonial constituant également un préalable indispensable pour penser la postérité du témoignage en littérature, qui n'est peut-être pas toujours là où on la cherche. Et ça constitue également un point de départ intéressant pour éclairer d'un jour nouveau le débat récurrent concernant les droits du romancier sur l'histoire. Selon une conception productiviste du devoir de mémoire, à mesure que les témoins disparaissent, on encourage les romanciers à les remplacer. Sans aviser que le roman historique a pu constituer un antimodèle pour le témoignage comme genre, sans songer surtout que si les survivants finissent par mourir, leurs textes, heureusement, leur survivent. C'est même leur vocation que de continuer à porter témoignage après la disparition de leur auteur. Par la grâce de la littérature, le processus de transmission n'a pas de fin. Nier que le témoignage puisse appartenir de plein droit à la littérature est donc une manière de faire mourir le témoin en même temps que le survivant. Voilà, donc il importe de sortir de l'opposition entre témoignage et littérature qui continue d'être de mise et de repenser les outils de la critique à l'aune de ce corpus qui pose des questions cruciales. L'exigence de véridicité que les témoins posent à l'horizon de leur texte a-t-elle droit de citer en littérature? Et si oui, disposons-nous des outils appropriés pour apprécier la singularité de ces œuvres? Peut-on envisager que les témoignages qui sont des documents nous fassent changer de regard sur l'œuvre littéraire? Le fait, enfin, de redonner une place aux témoins ne conduit-il pas à reconnaître, je cite Primo Levi, que la figure de l'artiste prophète, voix de Dieu, source de vérité, n'a plus cours aujourd'hui, et à redonner par là même à toute démarche d'écrivain son sens historique et politique?
Bien, merci pour cette mise au point très utile à partir de Jean Norton Cru. C'est évidemment un débat essentiel qui a eu lieu lors de la publication de ce livre, alors qu'il y avait eu ce déferlement de témoignages, de littérature, puisque Norton Cru s'intéresse à tout ce qui s'est publié entre 1915 et 1929, tout ce qui s'est publié à Paris sous forme de livres. Il y a donc une restriction assez... Enfin, s'il avait dû s'intéresser à ce qui s'était publié en province et un peu partout, ça aurait été encore bien pire. Donc ici, il s'intéresse à ce qui se présente comme roman, à ce qui se présente comme journal, à ce qui se présente comme tout ce qui est publié à Paris, jusqu'au grade de capitaine, puisque au-delà du grade de capitaine, on n'est plus en contact. Il s'intéresse seulement aux officiers de contact. Au-delà, on est il y en a eu beaucoup au-delà du grade des capitaines qui sont morts sur les champs de bataille, mais ça ne l'intéresse plus puisque... D'ailleurs, les livres écrits au-dessus de ce grade sont en général assez différents dans leur nature et dans leur pratique. Et vous avez donc entendu que ça a provoqué un débat considérable puisque tous les livres qui se vendaient étaient classés par cru dans la catégorie 4. Si mes souvenirs sont bons, il y avait un, Genevoix et Pézard, et puis ça descendait à 4, c'était bien ça, où il y avait d'Angelès.
Et même à 6.
Comment ?
Et même à 6. Il y a 6 classes.
Il y a 6 classes.
Il y a 30 auteurs dans la première, et Et ça continue jusqu'à 6, voilà, effectivement.
Et ils étaient en 4 d'Orgelès et Marbus ou en 6 ?
Non, ils sont en 4.
Quand même pas en 6. Oui. Mais enfin, ils étaient très bas alors que c'était ceux qui se vendaient. Alors, bon, vous avez entendu leur réaction. Il y a un historien qui a fait un livre sur, enfin, qui porte notamment sur la réception du livre et sur les réactions de Marbus. Marbus plus distant, c'est d'Orgelès qui s'est vraiment jeté dans la bagarre. Mais on peut aussi observer, parce que j'avais observé en faisant mon séminaire sur ce sujet il y a quelques mois, que d'Orgelès a introduit des variantes dans les croix de bois pour répondre aux objections de Cru. Donc un certain nombre de ces objections, vous n'en retrouverez plus le motif dans les croix de bois que vous allez acheter sur le marché. Autrement dit, en même temps, il a attaqué, mais il a critiqué. De même, il y a des variantes dans le récit de Paulhan que j'avais mis dans votre petite liste, hein, le guerrier appliqué. Paulhan a introduit des corrections à ce récit publié en 1917 pour tenir compte. Autrement dit, tous ceux qui avaient publié des livres entre 1915 et 1929 ont lu Norton Cru pour voir ce que cette critique philologique du témoignage avait observé, et ils ont corrigé un certain nombre de leurs descriptions et de leurs récits. Alors en même temps, ils l'attaquaient, mais ils l'ont reconnu. Vous avez entendu aussi dans les remarques que vous avez faites que, au fond, ce sont les universitaires qui ont défendu Cru. Quand vous nous disiez que Mornay, professeur, futur professeur à la Sorbonne, l'avait défendu, que Renouvin, professeur à la Sorbonne aussi, futur, que Jules Isaac, l'historien, c'est de là. Donc c'est du côté des habitués de la critique du témoignage, puisque la critique du témoignage, elle ne démarre pas avec la guerre de 14. Tous les historiens sont familiers depuis très longtemps. Donc Cru applique les méthodes de l'historien que l'on apprend dans tous les manuels positivistes d'histoire dans la période précédente à ces ouvrages. Le débat est évidemment toujours ouvert parce que reste un certain nombre de points que vous avez soulignés. Les livres qui se sont vendus, à part Genevois, qui est classé dans la catégorie 1 par Cru, à part Genevois, qui est toujours disponible et toujours lu, la plupart de ces témoins ne le sont plus. Et d'autre part, reste la question. Il y a bien plein d'autres questions. Chez beaucoup de ces témoins, y compris ceux qu'ils valorisent, il apparaît souvent le thème du de l'impossibilité du témoignage. L'impossibilité du témoignage parce que dans l'action, c'est un autre moi qui agit. Et un certain nombre d'entre eux évoquent cette impossibilité. Dès les premiers témoins de la guerre, dans le traumatisme de la violence, l'impossibilité de témoigner. C'est un point que Cru ne considère jamais, cette impossibilité de témoigner de ce que l'on a vécu dans une circonstances exceptionnelles, et la possibilité même de ce contrat testimonial. Peut-être on peut y réfléchir un instant. Et on peut aussi réfléchir un instant à cette réflexion sur la concurrence du témoin et de l'historien. Qui s'est surtout posé après la Seconde Guerre mondiale, mais déjà l'histoire de la Première Guerre mondiale s'est faite sous le contrôle des témoins, sous la moins nettement que pour la seconde, mais sous les yeux des témoins, et tandis qu'ils avaient leurs mots à dire. On peut aussi évoquer le fait, par exemple, dans la critique de... Bon, puisque les deux qui sont le plus sévèrement critiqués, c'est Barbus et Dorgelès, hein, c'est ça qui marque le plus. Depuis, nous connaissons des documents de Barbus et de Dorgelès. Il y a des lettres. Les lettres de Barbus ont été publiées, les lettres à sa femme ont été publiées après sa mort, dans les années 30. Et un certain nombre des points que crut attaquer comme fiction, comme invention littéraire, comme enjolivement, comme recherche d'effets littéraires, figurent déjà de première main dans les lettres de Barbus à sa femme au moment où il vit ces événements dans les tranchées. Et de la même façon pour Dorgelès, puisqu'on a publié il y a un certain nombre d'années un recueil très très intéressant où il y a les lettres de Dorgelès à sa mère et à sa maîtresse. Et il écrit le même jour à l'une et à l'autre, il écrit évidemment des choses complètement différentes à sa mère et à sa maîtresse de l'événement qu'il vient de vivre. Et ça, ça c'est un témoignage direct, c'est-à-dire qu'à sa mère, lorsqu'on écrit à sa mère, et cela semble assez fréquent, on ne dramatise jamais les événements. Lorsqu'on écrit à sa femme, soit on dramatise, soit on ne dramatise pas, mais lorsqu'on écrit à sa maîtresse, on dramatise plutôt ce qu'on est en train de vivre. Et autrement dit, il y a chez tous ces auteurs des témoignages immédiats qui sont déjà, enfin qui à la fois... à la fois contredisent un certain nombre des critiques de Cru, et puis d'autre part qui montrent que d'entrée de jeu, dans ces lettres, chez ces témoins, il peut y avoir des versions très très diverses de la même journée vécue le soir même, puisque ce sont des lettres quotidiennes. Vous l'avez dit, on écrit beaucoup pendant la guerre. Dorgelès et Barbus, mais tous les autres, ils écrivent tous les jours à leur mère ou à leur femme, à moins qu'il y ait une offensive qui les empêche de le faire. Voilà, sur un nombre de remarques, de questions.
Alors, je commence par la fin. Barbus et Dorgelès, effectivement, c'est là que sa critique est la plus sévère, c'est là que sa critique est la plus longue aussi. Ça prend pas mal de pages. Ça vient du fait que c'est déjà les auteurs les plus lus et que, de ce fait, ils ont une responsabilité particulière par rapport à ce qu'ils écrivent et par rapport à la vision de la guerre qu'ils diffusent. Donc, il y a cette volonté de Cru de prendre ça en compte. C'est vraiment toute la question de la responsabilité de l'écrivain et de ce qu'induisent ces textes dans l'imagination des lecteurs. Ils ont une grande responsabilité, ils renvoient l'écrivain à ses responsabilités. Concernant la correspondance de guerre, alors ça c'est quelque chose que Jean-Norton Cru avait remarqué, effectivement, qu'on n'écrit pas pareil à tout le monde, d'une part, et que lui, ce qu'il remarque en particulier, c'est qu'on n'écrit pas la même chose dans ses lettres que dans son journal. Et ce qui l'intéresse, justement, c'est de voir souvent une plus grande sincérité, une plus grande vérité dans le journal que dans les lettres, puisqu'on ne peut pas forcément tout révéler. C'est bien pour ça qu'il me semble que son analyse circonscrit quelque chose qui est un projet spécifique que j'identifie comme le projet testimonial qui justement consiste pour celui qui s'érige en témoin à présenter les choses telles qu'elles sont et non plus telles qu'elles, enfin, à destination, alors tout dépend du destinataire, effectivement sa femme, sa maîtresse, le destinataire du témoignage c'est l'humanité entière en quelque sorte pour le coup le schéma est assez clair, c'est le destinataire, ce sont tous les vivants, les morts sont aussi entrent en ligne de compte, ils font partie, le témoignage s'adresse aux vivants, se destine aux morts en partie aussi. Mais en tout cas, ce problème-là de la différence de qualité de ce que disent les témoins dans tel ou tel genre, c'est toute sa problématique, hein, de ce que les genres poussent à dire ou pas. Alors, juste concernant la concurrence du témoin et de l'historien, en effet, ça continue d'être brûlant, notamment sur le terrain de l'historiographie de la Grande Guerre, hein, de savoir la place à accorder aux témoins. Des historiens de la Grande Guerre parlent aujourd'hui encore de véritable dictature du témoignage. Donc, il y a là-dessus une guerre, hein, des témoins et des historiens qui continue de faire rage, en partie. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue que le projet de John Horton Crewe n'était pas du tout de se substituer à l'historien. Il n'a jamais prétendu que les témoins devaient écrire l'histoire de la guerre. Ce que lui a voulu faire, c'est expertiser ses livres de témoins pour remettre dans les mains des historiens des éléments, enfin, des témoignages, à partir desquels les témoignages les plus fiables lui désignaient en quelque sorte ceux qu'il estimait être, sur la base de sa propre expérience, de sa connaissance, de tout le livre de guerre, etc., remettre à l'historien ce qui lui semblait être un bon point de départ pour écrire l'histoire de la Grande Guerre. Donc cette concurrence le navrerait, à vrai dire, John Horton Crewe, puisque, encore une fois, en faisant une place aux témoins, il n'ambitionnait pas du tout de leur donner toute la place. Sur le thème de l'impossibilité du témoignage, il me semble qu'il agite plus John Horton Crewe que vous ne le dites, dans la mesure où John Horton Crewe n'a pas écrit de témoignage lui-même, pour commencer. Donc cette impossibilité-là, il en a fait l'expérience, d'une certaine manière.
Un super témoignage.
Voilà, un témoignage au carré, enfin quelque chose d'un peu... Voilà, c'est ça. Et en même temps, en fait, il a renoncé en voyant bien que s'il en écrivait un, il se perdrait lui aussi. Donc il fallait agir autrement. Donc effectivement, il a été du côté de la critique plutôt que de l'œuvre elle-même. Mais cette question de l'écriture, de la possibilité de l'écriture, de l'impossibilité, qui annonce des thèmes post-45, elle fait partie de ces préoccupations, de même qu'une réflexion sur la mémoire, c'est-à-dire que on est sur le champ de bataille, sitôt qu'on en revient, si on en réchappe, on oublie déjà, on enjolive déjà. Comment la mémoire oublie très vite ce que ça a été et comment il faut prendre des repères dans l'horreur pour pouvoir en rendre compte fidèlement, parce que paradoxalement, l'horreur est ce qui s'oublie le plus vite.
Enfin, il y a un problème que je voudrais aussi soulever, c'est la popularité du feu de Barbus dans les tranchées. C'est-à-dire que dans les tranchées, on lisait, on a beaucoup lu Barbus, et notamment en feuilleton, puisque ça a d'abord été publié en feuilleton dans l'œuvre, et non, l'opinion, dans l'œuvre. Et donc c'était publié en feuilleton, c'était lu dans les tranchées. Autrement dit, le témoignage est déjà, d'une certaine façon, intègre déjà la vision de Barbus. Puisque c'est Barbus qui a, d'une certaine façon, fourni les cadres de pensée du témoin. C'est ce qui est dit par un certain nombre de témoins, que le lisant Barbus, c'est ce qui leur a permis de penser leur expérience.
Et c'est ce qui est dit par Crewe aussi. C'est-à-dire que, c'est aussi ce qui est dit, et c'est ce qui est dénoncé quand même de manière critique, c'est-à-dire que il y a l'idée d'une forme d'intoxication littéraire. Par ça. C'est-à-dire que, finalement, enfin, ce qui impressionne beaucoup Crewe, c'est la manière dont, finalement, un cadre vient d'une certaine manière servir de filtre à l'expérience du combattant qui a lu, enfin, et encore plus au combattant qui a lu Barbus avant de combattre lui-même, et qui du coup ne voit plus la bataille que par ce prisme-là, et qui du coup sera pas capable, en tout cas selon Crewe, d'en rendre compte lui-même, puisqu'il ne rendra compte que dans son expérience livresque, même en tant qu'ancien combattant.
Oui, c'est le dernier petit... Rodant de cette affaire, c'est que la plupart des témoins ont lu Barbus avant de témoigner.
Voilà.
Voilà. Attendez, j'ajoute, oui. J'ajoute qu'il y a, aussi une correspondance de Norton Crewe qui est publiée, qui est très intéressante, puisque comme les autres, comme ce que je disais, lui, il écrit beaucoup à ses frères et sœurs, puis c'est une nombreuse famille, et il n'écrit pas la même chose à sa mère, à ses frères, à ses sœurs, sur ce qu'il est en train de vivre. Merci beaucoup.
Merci à vous.